Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Radio Rosanna Piperino.
Que se reproduce esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
C'est en Bolivie que je vous emmène pour l'escale reportage d'un jour dans le monde. Vous verrez que la Bolivie cherche son bord de mer, figurez-vous, pour retrouver le passage vers le Pacifique que le Chili lui enlevait il y a 140 ans. La Bolivie est allée jusqu'à La Haye. Une histoire incroyable qu'on vous raconte sous le radar et Florence Paracuelos avec une histoire émouvante, celle d'une Afghane qui passe un concours à la fac assise par terre, papier sur les genoux. 18h50, Sandy Dauphin qui désespère de faire refroidir la planète et qui en plus cette semaine perd de multiples espèces et viendra nous raconter. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four, qui a choisi non pas de compter les pays qui sanctionnent la Russie en ce moment, mais au contraire ceux qui ne la sanctionnent pas. Mais d'abord, nous allons passer ensemble 6 jours au Yémen. 6 jours, c'est pas beaucoup, mais ça nous en apprend beaucoup grâce à un documentaire diffusé ce soir sur Arte. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Ce n'est pas un chaos silencieux. Il y a les voix de la destruction, les bombardements, les cris des personnes sont là, mais on ne les entend pas. Peut-être tu pourrais imaginer quelqu'un qui crie, qui gémit. Son cri est très fort, son cri est très fort. La douleur et le gémissement sont très forts. Mais les gens passent et ne veulent pas entendre. Une guerre, c'est un pays qu'on n'entend pas. Il n'est pas silencieux. C'est juste qu'on ne l'entend pas. Voilà le Yémen, je crois.
Une guerre, c'est un pays qu'on n'entend pas. Bonsoir François-Xavier Trégan.
Bonsoir.
C'est vous qui réalisez ce film qui sera diffusé ce soir sur Arte. J'ai choisi cet extrait parce que c'est l'ouverture de votre documentaire et il est saisissant. Parce qu'effectivement, dans cette petite seconde-là, est résumé tout ce conflit au Yémen. En fait, c'est une guerre dont on ne parle pas. Donc, qu'on ne saisit pas, en fait.
Oui, Nabil Soubey, le journaliste en exil qui vit au Caire aujourd'hui, journaliste yéménite, préface de façon dramatique, je trouve, en effet, ce film. Il a tout dit. En une phrase, une guerre qui se déroule, pas très loin, forcément, de chez nous.
Rien n'est jamais très loin aujourd'hui.
Oui.
Et dont on ne parle pas. Ça fait 3 ans de guerre aujourd'hui. Vous étiez venu nous voir dans Un jour dans le monde lorsque vous reveniez tout juste de ce périple avec Peter Maurer, qui est le patron du CICR, la Croix-Rouge internationale. Il est revenu, vous revenez dans ce film, en fait, sur ce périple. Et puis, j'oublie pas Hélène Leger qui est avec nous également ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
On va parler ensemble de vente d'armes, parce que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis aussi. Ça, c'est votre cheval de bataille. Et ce sont des pays de la coalition qui attaquent le Yémen en ce moment. D'abord, François-Xavier Trégan, sans le CICR, donc il voyage avec vous. Vous ne l'auriez pas fait, ce que vous avez fait. Il faut voyager avec quelqu'un comme Peter Maurer pour que ça fonctionne, en fait,
oui,
pour pouvoir voir.
Complètement. Ce voyage que nous avons réalisé avec Stéphane Rossi, qui est à l'image de ce film, sans Peter Maurer, aurait été impossible. On aurait peut-être pu atterrir quelques jours à Sanaa, dans le nord, la capitale, quelques jours à Aden, dans le sud, mais traverser Aden, passer la ligne de front qui est à Taiz, dans les hauts plateaux, et atterrir dans la capitale officielle aurait été impossible. Impossible.
Ce qui est formidable, c'est de voir le CICR parler de barrage en barrage, y compris d'ailleurs aussi à Aden et à Sanaa, parler à tout le monde, parler à toutes les factions, parler à tous les groupes, les rebelles houthis, les forces gouvernementales, Al-Qaïda, l'État islamique, ce qui montre aussi que tout ça est une complexité bien plus importante que ce qu'on peut résumer nous en disant après tout un nord contre un sud, l'Arabie Saoudite qui soutient les uns, l'Iran qui soutient les autres.
Exactement, la guerre au Yémen aujourd'hui ou depuis 3 ans et l'addition de très nombreux petits conflits. Mais ces petits conflits pourraient devenir à terme de grands conflits. Il y a cette guerre en effet entre le Nord et le Sud, des putschistes déclarés comme tels et le pouvoir loyaliste, l'Iran, l'Arabie, qui se servent de ce pays tiers un peu dans le cadre du grand jeu de la guerre régionale. Mais en effet, à l'intérieur, dans le Sud, il y a un mouvement séparatiste, à Taiz, il y a des miliciens salafistes, Al-Qaïda, vous le rappeliez, l'État islamique. Dans le Nord, il y a des rebelles, mais qui ne font pas non plus front commun. Il y a des dissidences avec les rebelles ou des milices qui appartiennent ou appartenaient à l'armée régulière. Il y a des conflits dans le conflit.
Ça veut dire qu'il y a toutes ces alliances qui sont des alliances de circonstances peuvent non seulement exploser à n'importe quel moment, mais ça veut dire aussi que si on le règle à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, on n'aura rien réglé au Yémen.
Exactement, ça ne suffira pas. Le Yémen, et c'était le leitmotiv des personnes que nous avons rencontrées au cours de ces 6 petits jours menés à vive allure, vraiment dans ce pays, nous disent qu'aujourd'hui les Yéménites ne sont pas maîtres de leur destin. Et que même s'ils le souhaitaient, s'ils voulaient se réunir autour d'une table, ils ne pourraient pas obtenir un accord de paix, tellement d'autres conflits grignotent de l'intérieur ce pays aujourd'hui.
Et alors ce qui est fascinant quand on vous voit passer pendant ces 6 jours et qu'on voit le patron du CICR, c'est que les armes s'arrêtent lorsqu'ils passent. Oui. Il ne se passe rien pendant qu'il est là. Juste après, dès qu'il part, ça rebombarde à nouveau.
Ça rebombarde.
Mais au moment où il passe, il ne se passe rien.
Une sorte de trêve.
C'est le seul qui peut
informel.
Faire ça, j'imagine. Non,
il est la seule personne, Peter Maurer, qui a rang de chef d'État, qui est précédé de deux atouts incroyables, la neutralité et la discrétion. Donc, fort de ces deux atouts, tout le monde souhaite aussi lui parler pour ensuite transmettre des messages. Il a un peu un rôle de navette diplomatique, disons, d'éminence grise, de diplomate gris un peu, pour passer des message du nord au sud et à l'intérieur des groupes.
Et il écoute, effectivement, c'est ce qu'il fait. Et comme vous dites, en jouant la navette d'un groupe à l'autre, écoutons-le une seconde.
Je me rends dans une des capitales du Yémen. On sait très bien que il y a des capitales formelles, il y a des capitales informelles, il y a des capitales politiques. Sanaa quand même est une capitale importante dans le pays. Ce que j'évite en tant que président du CICR, c'est de donner l'impression comme quoi on reconnaîtrait l'une ou l'autre des capitales comme la capitale primordiale.
Fragile équilibre, fragile fil sur lequel il doit marcher lui aussi. Et d'ailleurs, il le raconte dans votre documentaire. Cette fois-ci, il a fait Aden Sanaa. La dernière fois qu'il était venu, il avait fait le contraire. Précisément, il faut montrer à chaque fois que non, on ne privilégie personne.
Oui, son dernier voyage, avant-dernier voyage était à l'été 2015, donc quelques mois après le déclenchement de la guerre qui a été déclenchée en mars de 2015. Donc Sanaa, capitale officielle qui tombe aux mains de rebelles houthis. Ensuite Aden, maintenant Aden Sanaa, il parle, il a cette belle expression de chorégraphie diplomatique. Voilà, il doit jongler avec les acteurs et la situation, au-delà de reconnaissance ou pas de telle ou telle ville.
Hélène Leger, je ne vous ai pas écouté, vous qui oubliez, pardon, ni écouté encore d'ailleurs, vous qui vous battez donc pour lutter contre les ventes d'armes de la France vers l'Arabie Saoudite et aussi vers les Émirats Arabes Unis. La question de nos responsabilités collectives dans ce conflit, elle existe évidemment, parce que nous appartenons nous aussi finalement à cette coalition-là. Nous vendons activement des armes à ces pays de la coalition, des armes utilisées au Yémen. D'abord, est-ce qu'on en est sûr à 100%? Est-ce qu'on peut dire oui, en ce moment, des populations civiles du Yémen sont frappés par des armes qui sont françaises?
Alors ça, on ne peut pas le dire. On sait que des armes françaises sont utilisées au Yémen, dans le cadre du conflit yéménite. On n'a pas la preuve que ces armes françaises ont servi à commettre des crimes de guerre ou autres violations graves du droit international humanitaire. Après, la question qui se pose, c'est pas la légalité des armes qui ont été fournies avant le début du conflit. Nous, ce qu'on conteste à la CAT et notamment en partenariat avec Amnesty International, c'est la légalité des ventes d'armes depuis le début du conflit, et alors même qu'on sait que toutes les parties au conflit, y compris les pays membres de la coalition, parmi lesquels l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, commettent des violations graves du droit international humanitaire.
Éclairez-nous en quoi ça peut être illégal, parce qu'après tout, soyons cyniques jusqu'au bout, vendre des armes, on a le droit de le faire.
En fait, les exportations d'armes en France sont encadrées strictement par deux textes internationaux, le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne. Et ces deux textes ont en commun d'interdire strictement et fermement toute exportation d'armement, de matériel militaire, dès lors que ce matériel militaire pourrait être utilisé pour commettre des violations graves du droit international
donc
humanitaire.
Donc le pourrait être suffit, c'est-à-dire ne pas le savoir, c'est pas grave au final.
En fait, suffit qu'il y ait un risque. Dès lors qu'il y a un risque, l'exportation doit être interdite, peu importe que ce risque se concrétise ensuite et que des armes françaises soient effectivement ou non utilisées pour frapper des civils.
Est-ce que nous sommes seuls à faire ce genre de démarche? Est-ce que d'autres armes utilisées, parce que les Américains, les Russes, enfin tout ça vend des armes aussi, y compris dans cette direction-là, le font aussi dans des organisations du même type que la vôtre? Et après tout, Amnesty est internationale. Ce qui permettrait, après tout, peut-être, de donner un regard sur ce conflit en passant par la fenêtre au lieu de passer par la porte, puisque visiblement c'est beaucoup plus compliqué.
En fait, étonnamment, en France, pays des droits de l'homme, on est très à la traîne sur l'ouverture d'un débat sur la question de la légalité et de la moralité des ventes d'armes dans le cadre du conflit yéménite. Il y a déjà des débats publics qui sont nés au Royaume-Uni, en Allemagne, en Finlande, en Norvège. Il y a même des décisions qui ont été prises par plusieurs autorités de pays européens, mais aussi au Canada, etc., pour stopper l'exportation d'armement vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. En France, on n'en est même pas, pour le moment, à la création d'un débat public.
Est-ce qu'on vous regarde du coup avec beaucoup de condescendance? C'est ça l'idée? Puisque alors, vous portez cette action en justice, comment on la regarde?
Alors on ne la porte pas encore en justice. Pour le moment, on a publié une étude disant qu'il y a de forts risques que les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis soient illégales. La deuxième étape, ce sera de porter cette affaire devant la justice. On a lancé une campagne, il y a un mois et demi, une campagne d'interpellation des députés pour leur demander la création d'une commission d'enquête parlementaire sur cette question des ventes d'armes pour lever l'opacité. Et cette initiative est plutôt bien accueillie.
Qu'est-ce qui se passe derrière, donc, maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez alerté, on va dire?
Alors, on voit de plus en plus de députés interpeller le gouvernement par des questions écrites, par des questions orales au gouvernement. On voit les médias se saisir de cette question et donc aussi permettre la création d'un débat public auprès des citoyens français et pas seulement des députés. Et donc, c'est une initiative qui naît pour le moment, mais qui tend à se développer.
François-Xavier Trégant, je reviens à vous, et justement d'ailleurs en parlant de ces utilisations d'armes, ce qui est frappant, ce qu'on comprend d'ailleurs en vous écoutant dans ce documentaire, c'est que cette guerre qui finit par un conflit entre chiites et sunnites, au bout du compte, c'est pas le Yémen en fait. C'est un peu comme si cette chose avait été importée, mais qui était très, très étranger à ce qu'a été le Yémen pendant des années et des années.
Oui, par exemple la religion n'a jamais été un marqueur au Yémen, absolument jamais dans son histoire millénaire. Les gens ne se présentent pas en tant que sunnites ou chiites ou autres, c'était totalement fabriqué à la faveur justement de ces tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Aujourd'hui, par contre, c'est une réalité, le facteur confessionnel existe. Un combattant met ça en avant, un politicien, un milicien, et c'est une nouveauté. Je voudrais, si vous me permettez, juste poursuivre sur la question de ces questions d'armement pour rappeler que la moitié des victimes de cette guerre sont civiles et que le pays que nous avons traversé avec Stéphane Rossi est fracassé. Mais quoi ? Les écoles, les hôpitaux, les centrales électriques, etc.
Et j'allais y venir, il y a des témoignages d'ailleurs dans ce sens-là. Pardon de poser la question comme ça, est-ce qu'il vaut mieux vivre à Aden ou à Sa'an ? Ou les deux, mon capitaine, ni l'un ni l'autre.
Il y a quelques semaines, je vous aurais répondu à Aden, mais malheureusement, Aden est pris dans le tourbillon d'une guerre interne maintenant entre séparatistes. Voilà. Donc, beaucoup de Yéménites vivent aujourd'hui à l'étranger. Ils sont des dizaines de milliers à avoir fui le pays.
Donc, il reste debout, pardon, mais debout, il reste quoi ? Alors, on voit un hôpital, effectivement, dans votre sujet, qui a bien des soucis et besoin de beaucoup de choses. Quel genre d'infrastructure ? Quel genre de reste administratif ? Est-ce qu'il y a encore une école debout ? Qu'est-ce qui reste, en fait ?
Tout a été cassé. Il reste quelques hôpitaux, oui, et dispensaires dans le pays. Quelques écoles, oui. Mais à l'échelle de ce pays, et surtout du travail qui avait été fait pendant des décennies, le Yémen est un pays pauvre, il a toujours été. La guerre, aujourd'hui, s'est greffée à une pauvreté très puissante et très ancrée dans le pays. Et donc, tout ce travail de construction de l'État a été mis à terre.
Alors, un État, par ailleurs, invisible, parce que même le président en exil, il n'est pas là ni pour recevoir des bombes sur la tête comme son peuple, ni même pour se montrer. Il n'existe pas, puisqu'il est au-dessus en Arabie Saoudite.
Il est en Arabie, au calme, disons. Il évite les dissidences et les tensions. Il n'est pas très apprécié par la population, qui lui reproche toute cette machinerie de guerre qu'il a sollicitée. Hein. C'est lui qui a demandé l'intervention de l'Arabie et de la coalition au printemps 2015. Et toutes les tensions maintenant qui naissent parce qu'il est accusé de corruption, de népotisme, de négligence pour le moins.
Un extrait de votre documentaire à nouveau, ça se passe dans un hôpital, l'un des rares hôpitaux que vous avez pu voir, où il y a effectivement des gens qui sont sur place, soignés d'ailleurs pour le choléra.
1 million de personnes sont affectées par le choléra. Cette épidémie est la plus importante au monde.
Le ministère de la Santé n'a rien du tout. Il ne nous donne rien. Si je veux des traitements ou des médicaments, ils nous le disent qu'ils n'en ont pas. Parce que personne ne nous soutient, même pas le ministère de la Santé. Ils n'ont rien. Ils ne nous soutiennent pas.
Vous vous sentez seul ?
Oui, nous sommes seuls, vous savez. Personne ne nous aide. Il faut nous aider.
Elle en rit presque quand elle répond à votre question, François-Xavier Trégant, parce que oui, évidemment, ils sont seuls. Enfin, et elle peut qu'en rire, la pauvre.
Sourit de ma question. Ouais. Ce chef de service de l'hôpital du 22 mai, un des rares hôpitaux encore debout à Sana'a, aujourd'hui, parce qu'en effet, ils sont seuls et depuis très longtemps.
La phrase qui suit ou qui précède, c'est comme si on ne faisait plus partie de ce monde. C'est ce qu'elle dit, cette femme.
Oui, et ça a été une phrase un peu leitmotiv au cours de ce voyage. Plusieurs personnes nous ont interpellés sur cette absence.
Juste une dernière chose, avant de vous laisser tous les deux, vous avez habité au Yémen, vous y avez fait de nombreux voyages à l'époque où c'était encore possible. À quoi ça ressemblait autrefois le Yémen ? C'était quoi ce pays en fait ?
Ça ressemblait à un pays en ébullition positive pour changer les choses dans cette seule et unique république de la péninsule arabique, encadrée par des monarchies, par des sultanats, donc où le pouvoir par définition est héréditaire. Un pays qui voulait construire des infrastructures, des écoles, qui voulait offrir le meilleur. D'ailleurs, la révolution de 2011 a failli fonctionner. Au Yémen, ça a failli fonctionner. La guerre est venue tout entraver.
Voilà, failli. Tout est dans ce mot-là. Merci mille fois. Merci beaucoup, Hélène Leger, d'avoir participé à Un jour dans le monde. François-Xavier Trégance, c'est ce soir sur Arte, 21h45, votre reportage formidable sur le Yémen. Merci à tous les deux.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Bolivie, qui veut un petit morceau de mer vers le Pacifique et qui le dispute au Chili, vous verrez. On vous raconte une histoire de serveur français aussi, ça se passe dans Sous les radars avec Florence Paracuelos dans un instant. Sandy Dauphin est là, bonsoir Sandy.
Bonsoir, on parlera d'une question. Le climat est devenu un enjeu planétaire, mais pas la biodiversité, alors qu'on assiste à une extinction massive des espèces.
Voilà, extinction des espèces, les oiseaux, mais pas seulement, on y vient dans un instant. Jean Marfour, Le Monde à l'envers, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous voulez compter à l'envers ce soir en fait.
Exactement, on a l'impression que des diplomates russes sont expulsés de partout dans le monde. En fait, pas du tout, hein, pas du tout. Tout le monde n'expulse pas des diplomates russes, vous verrez.
Allez, on verra votre petit tableau tout à l'heure, il sera 18h55. Merci beaucoup, voici les Beatles, Strawberry Fields Forever, figurez-vous. Let me take you down. De champs de fraises avec des scarabées à l'intérieur, ça ne marchera jamais. Florence Paracuelos, c'est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yeras Machio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Florence, on commence sous les radars avec une belle histoire. Tiens, une fois n'est pas coutume, ça se passe en Afghanistan ou comment une photo en 2018 toujours peut changer une vie.
La vie d'une Afghane de 25 ans, mariée à 18, trois enfants, l'histoire semble écrite d'avance, mais cette femme ne veut pas se résoudre à la place qui lui est destinée. Elle veut faire des études. Elle va donc s'inscrire au test d'entrée pour intégrer une université du centre du pays. Pour ça, elle va marcher 2 heures dans la montagne, son petit dernier sous le bras, faire 9 heures de bus pour arriver enfin et se mettre à plancher. Mais voilà, son bébé a mal à l'oreille, il se met à hurler. Alors pour le calmer, elle le prend dans ses bras, s'assied par terre et continue son examen pendant que tous les autres sont à leur pupitre. C'est là qu'un prof de l'université la prend en photo. L'image va faire le tour de la toile en Afghanistan et le rêve de cette femme, Jahantab Ahmadi, va pouvoir se réaliser. Je n'ai pas pu faire d'études parce que je n'avais pas assez d'argent. Alors j'ai arrêté trop tôt. Les filles ont une vie difficile en Afghanistan, faite de pauvreté et d'illettrisme. Mais moi, ce que je veux, c'est continuer mes études. Je veux que mes enfants aillent à l'école pour qu'ils aient une vie meilleure. Je veux être utile à la société et surtout aux femmes. Parce qu'elle veut devenir médecin, Jahantab Ahmadi, qu'on entend ici interrogée par Radio Free Europe. Elle va peut-être y arriver grâce à la photo. Une campagne de financement en ligne lancée pour l'aider à récolter 14 000 dollars, une fortune en Afghanistan. Et elle a désormais quitté ses montagnes pour Kaboul, hébergée avec son mari et ses enfants chez une défenseure des droits des femmes. C'est dans la capitale qu'elle va finalement poursuivre les études dont elle rêve, soutenue financièrement et soutenue par des milliers de messages d'encouragement. Tu es une vraie championne du monde, lui dit un homme sur Facebook, un homme qui fait partie du tiers des Afghans, un tiers seulement qui savent lire et écrire. Chez les femmes, évidemment, la proportion est encore plus faible.
Et Florence, vous avez envie d'histoire positive ce soir et vous avez raison. On continue avec un homme exceptionnel qui est mort ce week-end au Venezuela. C'était le fondateur d'un programme d'éducation à la musique connu dans le monde entier.
José Antonio Abreu avait 78 ans. Il laisse derrière lui un des projets musicaux les plus ambitieux au monde, El Sistema, qui a formé à la musique des dizaines de milliers de jeunes vénézuéliens et qui a été repris dans une cinquantaine de pays. C'est un programme qu'il a imaginé dans les années 70 à destination des enfants des quartiers populaires, avec l'idée que la musique ne doit pas être un luxe mais un patrimoine commun, une sorte de service public d'émancipation par la musique. Cet homme était habité par cette ambition.
Lo más trágico de la pobreza no es
Le pire quand on est pauvre, c'est pas de manquer de pain et d'un toit. C'est de se sentir moins que rien, de n'être rien, de ne pas pouvoir s'identifier, de ne pas être reconnu. Dans le chœur et dans l'orchestre, l'enfant se projette dans une identité noble, dit-il aussi. Il devient un modèle pour sa famille et pour sa communauté et il devient un meilleur écolier grâce au sens de la discipline. José Antonio Abreu pouvait parler des heures des bienfaits de la musique pour les enfants. Ils sont 900 000 aujourd'hui à bénéficier de son programme rien qu'au Venezuela. Des orchestres, de ces orchestres sont sortis d'immenses musiciens qui ont fait carrière dans des formations prestigieuses. Le plus connu, c'est Gustavo Dudamel, chef d'orchestre reconnu dans le monde entier. En ce moment, il dirige le Philharmonique de Los Angeles. Et là, c'est lui qu'on entend sur du Debussy à la baguette du Philharmonique de Vienne. C'était en 2012.
Voilà. Et puis, enfin, Florence, Mozi français, notre culture est-elle préjudiciable à l'étranger? C'est une question qui est posée par un serveur français de Vancouver.
Un serveur licencié par son employeur, pas parce qu'il faisait mal son boulot. Non, ses qualités professionnelles ne sont pas mises en cause. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être mal poli, agressif et irrespectueux envers ses collègues. Lui conteste, il a saisi la justice avec cet argument. C'est pas ma faute, je suis français, je suis victime de discrimination contre ma culture. J'ai été virée parce que je suis plus directe et plus expressive que les Canadiens. Qualités qui me viennent notamment de l'industrie hôtelière française. La plainte est retenue. Il y aura donc une audience pendant laquelle Guillaume, c'est son prénom, sera cuisiné sur son héritage français. La magistrate canadienne a prévenu.
Dis donc toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu, andouille,
T'as entendu, hein? C'est ça, les Français.
On ne s'en lasse pas, évidemment.
Non, on ne s'en lasse pas. Moi, je suis quand même assez curieuse de savoir ce qu'il a dit, en fait.
Mais il va se défendre, ce monsieur. Il y aura une audience publique.
Allez, c'est bon, Florence, vous pouvez sortir maintenant. Quittez mon studio.
Donc, je vous raconterai ça, oui. Si vous êtes sympa, Fabienne.
Eh bien, voilà. Si je veux. Allez.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière,
un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Ah, ce bord de mer, ces vagues, la plage, au loin, l'infini Pacifique, et bien la Bolivie, le vœu, la Bolivie, jeter un œil sur une carte qui n'a pas de côte, mais qui a bien failli, son accès au Pacifique lui a été enlevé, figurez-vous, par le Chili en 1879. Depuis, et bien, le pays rêve de retrouver le chemin vers le Pacifique. Bonsoir Alice Campagnol.
Bonsoir Fabienne.
C'est très sérieux cette histoire d'envie d'accès à la mer. C'est même la raison pour laquelle d'ailleurs la Bolivie et le Chili s'engueulent depuis plus de 100 ans. Evo Morales, le président bolivien, a porté l'affaire jusqu'à là et figurez-vous, ce qui a passionné évidemment les Boliviens. L'épilogue est donc proche et c'est ce que vous nous racontez Alice.
In the case concerning the obligation to negotiate access to the Pacific Ocean, Bolivia versus Chile.
Cette année, le mois de mars est un peu spécial en Bolivie car à plus de 10 000 km de là, à La Haye, vous l'avez dit, c'est un moment historique qui est en train de se jouer, la dernière ligne droite de ce que l'on appelle ici la demande maritime. Tous les yeux des Boliviens sont rivés sur la Cour internationale de justice. Les plaidoiries sont en effet diffusées en direct à la télévision nationale et d'ici quelques mois, la Cour devra rendre sa décision. Alors pour y voir plus clair, un peu d'histoire. 1879, la Bolivie perd 400 km de côte. Après une invasion chilienne, s'ensuit une guerre de 5 ans, la guerre du Pacifique perdue par la Bolivie et avec elle tout accès à la mer. Depuis donc quasiment 140 ans, la Bolivie pleure ses côtes et notamment chaque 23 mars, jour de la mer. Lors des commémorations de cette journée, chaque année, les soldats chantent Antofagasta, Tierra Hermosa, l'hymne de la mer, dans lequel le pays andin espère retrouver un jour ce département perdu d'Antofagasta. Sur le drapeau maritime également, on retrouve ce territoire représenté par une 10e étoile, plus grande que les 9 autres pour ce 10e département qui n'appartient plus à la Bolivie. Un drapeau bleu foncé, le drapeau maritime qui est sur tous les bâtiments publics et que l'on a beaucoup vu tout au long du mois de mars. Gracias. Notamment car il a été déployé sur 196 km le 10 mars dernier. Le gouvernement voulait créer l'événement en fabriquant le plus grand drapeau au monde et ainsi attirer l'attention sur la demande bolivienne face au Chili. Car si la perte de la mer est effectivement un sujet important pour les Boliviens, Evo Morales, lui, en a fait son cheval de bataille au cri de « Mer pour la Bolivie ».
Mar para Bolivia!
Mais que demande exactement la Bolivie à La Haye? Il faut s'adresser à une spécialiste de droit international pour comprendre, Karen Lungaric, professeure de droit à l'Université de La Paz.
Le 23 mars 2011, face au refus du Chili de revenir à la table des négociations, Evo Morales annonce qu'il veut amener le thème maritime devant la justice. Dans sa plainte, la Bolivie dit à la Cour internationale de justice que le Chili s'est engagé, à plusieurs moments dans l'histoire, à négocier un accès maritime souverain pour la Bolivie. Donc la Bolivie demande à la Cour de déclarer que le Chili a l'obligation de négocier de bonne foi une sortie jusqu'au Pacifique.
La Cour déclare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida al mar.
La Cour pourrait donc demander au Chili de revenir à la table des négociations. En aucun cas, elle n'a la possibilité de l'obliger à donner des côtes à son voisin. Mais malgré tout, c'est un grand espoir pour la Bolivie. Alors le gouvernement organise de très nombreux événements. Le déploiement de ce drapeau gigantesque, mais aussi des commémorations, des cérémonies, des reconstitutions de batailles. Mais pour Karen Lungaric, le gouvernement ferait mieux de s'abstenir.
Je suis contre ce type de manifestations. Je ne crois pas que ce soit utile. Et pire, je crois que ce sont des événements chauvins et un peu fanatiques. Cela exacerbe l'enthousiasme des gens et leur fait perdre toute objectivité sur le problème.
Une grande opération communication autour du thème maritime, voilà ce que l'on reproche à Evo Morales, dont la popularité baisse sévèrement ces derniers mois et pour qui un jugement favorable de la part de la Cour serait une aubaine. Mais le président, lui, nie toute intention politique.
Nous n'avons jamais utilisé le thème maritime politiquement. J'ai entendu, Evo se sert de la mer pour une question politique. C'est totalement faux. En 2005, est-ce que j'ai eu besoin de ça pour gagner avec 54% des voix? Ou en 2009 ou en 2014? Il faut être à l'écoute de ce que veut le peuple.
Et il est vrai que beaucoup de Boliviens sont très enthousiasmés par la possibilité d'un jour récupérer la mer sur la Plaza Murillo à La Paz où a été installé un écran pour suivre le déroulé des événements à La Haye.
Nous voulons la mer pour la Bolivie et nous voulons être entendus à l'étranger, même par les Chiliens, qui nous rendent notre mer. Nous rêvons tous d'aller à la mer, à la plage même, avec nos enfants. C'est ça notre but.
Sans accès maritime, nous perdons beaucoup et nous ne savons pas combien. Cela nous fait souffrir car en réalité nous enrichissons le Chili.
Car c'est un argument de poids pour les Boliviens, le développement du pays est ralenti en raison de l'absence d'accès au Pacifique. Mais même si d'ici quelques mois, la Cour donne raison à la Bolivie, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays risque d'être long et laborieux. Et les autorités chiliennes le répètent, elles n'ont aucune intention d'octroyer des côtes à leurs voisins boliviens.
Formidable histoire des Boliviens qui voulaient voir la mer. Une histoire signée Alice Campagnol pour Un jour dans le monde sur France Inter.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Es.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Le feuilleton écolo d'Un jour dans le monde, c'est Sandy Dauphin, tous les mardis. Sandy, un coup de gueule. Aujourd'hui, vous avez les bras chargés de mauvaises nouvelles et il ne se passe rien. On nous annonce la disparition de plein d'espèces d'oiseaux. Le dernier rhinocéros blanc est mort. Il est mort de vieillesse, certes, mais il est mort. On fait aussi le bilan complet de la planète, une sorte de check-up. C'est IPBES qui s'en charge. 5 rapports en tout. Le résultat est pas brillant, voire catastrophique. Or, pétard mouillé, rien ne change.
Oui, dans ces rapports, on lit par exemple qu'en Europe, en l'espace de 10 ans, 42% des espèces animales et végétales ont connu un déclin de leur population, 42%. Un quart des sols sont dégradés. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais une autre donnée, dans la région Asie-Pacifique, la ressource en poissons sera épuisée dans 30 ans. Voilà, on assiste à une extinction massive des espèces partout dans le monde. Et pourtant, cet effondrement de la biodiversité semble passer sous les radars des politiques. D'où cet appel lancé aux députés par le ministre de l'Environnement la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le « Indignez-vous » de Nicolas Hulot.
Tout seul, je n'y arriverai pas. Oui, je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, qui va succéder à la stratégie de la biodiversité. Mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche, à part quelques-uns. Donc je veux simplement avoir un sursaut d'indignation et de réaction parce que l'humanité a une communauté d'origine avec le vivant et il a une communauté de destin avec le vivant. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Merci.
Oui, des applaudissements. Et puis, c'est tout pour l'instant. Il y a bien eu une déclaration d'Emmanuel Macron samedi à l'adresse du Monde sur le déclin de la biodiversité. Mais on ne peut pas dire qu'on ait assisté à un sursaut de la classe politique française ni de la communauté internationale sur cette question.
Et donc, la formule de Jacques Chirac, bien connue, est plus que jamais d'actualité. La maison brûle et nous, on regarde ailleurs. Mais pourquoi ?
Parce que la protection de la nature est encore trop souvent considérée comme un luxe. On la voit comme un décor au lieu de se dire qu'on fait partie d'un tout, d'un système complexe interdépendant. Si l'on raye de la carte les insectes, 80% d'insectes d'insectes en moins en Europe. Eh bien, il n'y a plus d'oiseaux. Et puis, qui va polliniser les cultures? Et si les stocks de poissons continuent de diminuer? Et si les terres sont moins fertiles? Et puis, disons-le franchement, il y a encore dans la classe politique, mais aussi dans certaines rédactions, ce petit côté un peu dédaigneux. On a autre chose à faire que de s'occuper des petites fleurs et des pandas tout mignons, nous. Il faut que la biodiversité entre dans le débat politique, estime Pascal Canfin, directeur du WWF France.
La biodiversité, la nature, ça n'est pas encore compris et conçu comme un sujet digne d'expression politique. Emmanuel Macron peut s'exprimer sur le climat, peut faire venir des centaines de chefs d'État. Donald Trump, dans l'autre sens, considère que c'est aussi digne de lui de s'exprimer sur le climat, mais personne ne considère que c'est digne d'être chef d'État et de s'exprimer sur la nature, la biodiversité. C'est ce qu'on dit, les petits oiseaux, les petites fleurs, c'est marginal.
Mais là, il y a quand même quelque chose, Sandy. Est-ce qu'il ne faut pas aussi trouver une autre formulation que des messages anxiogènes, finalement, qui nous annoncent que ça va être la fin du monde, que on va tous mourir, etc. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver autre chose, en fait, pour que ça marche?
On peut toujours faire plus de pédagogie pour expliquer le lien entre la faune, la flore et la survie des humains, pardon pour la formule grandiloquente. On peut aussi insister sur le fait qu'il y a des solutions. On sait construire des villes plus durables, des forêts mieux gérées, pêcher sans épuiser les stocks. Mais tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, on a encore besoin de voyants rouges qui clignotent, d'après Pascal Canfin.
Je ne suis pas d'accord avec le fait que les messages alarmistes ne fonctionnent pas, puisque en ce qui concerne la biodiversité et la disparition du vivant, très peu de gens ont entendu ces messages. Donc avant de considérer qu'ils ne fonctionnent pas, faisons en sorte que les scientifiques s'expriment. Ils commencent tout juste à s'exprimer. Et d'ailleurs, on a aussi beaucoup reproché à ces scientifiques-là, à ceux de la nature, d'être beaucoup moins présents, beaucoup moins offensifs dans les médias pour alerter que les climatologues.
Aujourd'hui, le climat est devenu un enjeu diplomatique. On en parle désormais dans tous les sommets internationaux. La biodiversité va-t-elle réussir à se frayer le même chemin? En tout cas, la crise de la biodiversité occupe 8 fois moins de place dans les médias que le réchauffement climatique, d'après une étude du CNRS franco-canadienne publiée en janvier.
Sandy Dauphin, merci beaucoup. Sandy Dauphin, dans Un jour dans le monde, Jean-Marc Fourella.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Jean-Marc Fourré, le monde à l'envers. Jean-Marc, la tension continue de monter donc entre l'Occident et la Russie. Nouvelles annonces aujourd'hui d'expulsion de diplomates russes. On en est au total à 117, peut-être même 118, avec un nouvel espagnol belge, pardon, du côté de la Belgique, à une dernière expulsion. Bref, les derniers, c'était donc les Belges et aussi l'initiative de l'OTAN. Tout ça dans le cadre des soupçons de responsabilité de Moscou dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Mais dans votre monde à l'envers, Jean-Marc, vous voulez renverser le sujet. Et ce soir, vous dites attention à ne pas généraliser, toute la planète n'est pas non plus en train d'expulser des diplomates russes.
On commence avec un petit problème d'arithmétique niveau 1. Vous êtes prêts, sachant que l'Union européenne compte 28 membres,
enfin,
sachant que...
presque 27, hein, si je puis
me permettre. Oui, enfin encore 28 tant que le Royaume-Uni est dedans, sachant que 19 d'entre eux, dont le Royaume-Uni, ont décidé de mesures d'expulsion. Combien, à l'inverse, n'ont rien fait? Facile, 28 moins 19 égale 9, bravo. Au sein de l'Union européenne, pourtant au cœur de la mobilisation, il y a donc 9 pays à ne pas vouloir s'en mêler, ça fait un tiers. Donc effectivement, à 1h de Paris, la Belgique a hésité jusqu'à ce soir. Il y a seulement 15 minutes, elle vient de se décider à expulser un diplomate russe. Pour le reste, les 9 partisans restants de la prudence avancent 3 arguments. 1. L'absence de preuves irréfutables sur l'implication russe dans l'empoisonnement de Skripal. C'est en gros l'argument de la Grèce ou de la Slovénie. 2. La volonté de rester neutre pour sauver le dialogue avec Moscou. C'est le point de vue de la Bulgarie, de la Slovaquie, du Portugal et surtout de l'Autriche, dont le jeune chancelier Sébastien Kurz se verrait bien jouer le rôle du médiateur entre l'Est et l'Ouest. Enfin, 3, il y a les pays plus petits, Malte, Chypre, Luxembourg. Ils ne possèdent sur leur sol qu'un petit contingent de diplomates russes et donc ils disent « en expulser ne serait-ce qu'un seul serait disproportionné ». Bon, on n'est pas naïf, il y a sans doute aussi des raisons moins nobles, plus officieuses. Par exemple, l'importance des capitaux russes, pas toujours très propre d'ailleurs, à Chypre, voire en Grèce, n'est peut-être pas étrangère à cette prise de position. Et puis plusieurs anciens pays de l'Est, Bulgarie, Slovaquie, ne veulent surtout pas se brouiller avec le Kremlin. Conclusion en tout cas de notre petite opération d'arithmétique, on est loin de l'unanimité au sein de l'Union européenne.
Mais alors si on regarde hors Union européenne, ça donne quoi?
Là, c'est pour le coup, il n'y a quasiment plus personne. En dehors de l'Union, seulement 9 pays ont ouvert la boîte à expulsion. En résumé, les puissances occidentales, États-Unis, Australie, Canada, ou des pays qui frappent à la porte de l'Union et veulent mettre Moscou à distance, par exemple l'Ukraine, l'Albanie, la Macédoine. Et sinon, Waterloo, mort de plaine, personne en Asie ni au Proche-Orient, personne en Afrique, personne en Amérique du Sud. Pour l'anecdote, dans l'Occident d'ailleurs. La Nouvelle-Zélande, par exemple, affirme, je cite, « Nous avons cherché des espions parmi les diplomates russes, mais nous n'en avons pas trouvé ». Soit dit en passant, c'est d'ailleurs un peu troublant d'entendre les pays occidentaux affirmer « Nous expulsons tel et tel diplomate parce que ce sont des espions ». Dans ce cas, question, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Je dis ça, je dis rien. En résumé, ailleurs dans le monde, il n'y a pas foule pour rentrer dans la partie, alors qu'après tout, l'hypothèse d'une ingérence russe est une question qui se pose à tous. Et d'ailleurs, dans les grands médias indiens, chinois, sud-américains, l'affaire est regardée avec beaucoup de distance et de circonspection.
Voilà, donc on est bien dans ce bon vieux conflit Est-Ouest, en fait.
Exactement, vous avez compris, il est exagéré de dire, comme on peut le lire ici ou là, qu'il s'agit de représailles mondiales contre la Russie. En revanche, on peut bien parler d'un avatar de la guerre froide, d'un côté les Occidentaux, de l'autre Moscou. Là où ça se complique, c'est qu'entre-temps, depuis les années 60 ou 70, depuis la guerre froide, le bloc communiste d'Europe de l'Est a implosé, je crois que ça n'a échappé à personne. Et du coup, que se passe-t-il ? D'un côté, Moscou se retrouve un peu solitaire, sans ses satellites. De l'autre côté, l'Europe des 28 est divisée. Elle est déjà divisée sur le degré d'intégration budgétaire et fiscale ou sur l'accueil des migrants. Elle est aussi divisée sur la relation à la Russie et plus largement sur le modèle de l'état de droit. L'évolution récente sur ce sujet d'anciens pays de l'Est est assez inquiétante. Et le modèle Poutine, on le voit bien, ne déplaît pas à tout le monde en Hongrie ou en Pologne, par exemple. Une Europe à 28 se retrouve donc, c'est pour ainsi dire mécanique, traversée par le conflit Est-Ouest. Donc si la tension s'accroît avec la Russie, il y a fort à parier que la désunion au sein de l'Europe se développera à peu près au même rythme.
Allez, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, merci beaucoup. Vous revenez évidemment demain, le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour et puis avec le téléphone sonne, une question compliquée ce soir alors qu'on est à la veille de l'hommage national qui sera rendu au gendarme qui a sacrifié sa vie vendredi. Quelles solutions n'ont pas encore été explorées pour lutter contre le terrorisme ? Est-ce qu'il faut encore changer des choses ? À tout de suite.